Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, ce sont des histoires, des contes, des légendes, tout un tas de petites histoires et aujourd'hui, contes des sages artisans. Kézaken, me direz-vous ? Eh bien oui, il y a des sages partout. Et les éditions du Seuil s'en sont rendues compte, puisque depuis quelques années, ils nous sont sortis tout un tas de petits livres, vous les avez peut-être vus, ils sont un peu étroits, contes des sages scandinaves, contes des sages berbères, contes des sages gardiens de la terre, contes des sages de Papouasie, Nouvelle-Guinée, contes des sages bouddhistes, etc. Je vous épargne toute la liste, il y a des contes des sages de toutes sortes. Et là, conte des sages artisans, aujourd'hui on aura droit à des histoires de tailleurs de pierre. Donc, en honneur, bien sûr, est le travail manuel. À propos de travail manuel, que se passe-t-il en ce moment ? Eh bien, vous avez remarqué sans doute hein, ce week-end, c'est le réveil des tondeuses et des débroussailleuses. Tout doit être net. Bon, alors... Rappelons quand même que ce qu'on appelle la biodiversité, vous savez que la biodiversité est menacée. Vous croyez que ça n'a rien à voir avec vous, bien sûr. Et pourtant, tout un tas de gestes portent atteinte à la biodiversité. Et un parmi d'autres consiste, par exemple, à radicalement raser et... épurer, nettoyer tous les espaces sauvages de manière à ce qu'on ait quelque chose de net. Tout doit être net. Et le résultat, où est-ce que les oiseaux nichent ? Vous savez qu'il y en a beaucoup qui nichent dans les buissons et quand on passe la débroussailleuse, on tue les couvées. Vous savez que beaucoup d'insectes, même la plupart, ils vivent dans l'herbe que vous tondez. La tondeuse, qu'est-ce qu'elle fait ? Zrp ! Elle les décapite même pas, elle les pulvérise. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit jamais utiliser un seul outil mécanique, certes, mais retrouvons le goût du travail manuel, mais sans moteur. Hein. On garde les moteurs quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Une bonne fosse à couper l'herbe sans déchiqueter les insectes, on peut faire plein d'autres choses tout simplement à la main. Maintenant, il semble que lorsqu'on travaille, et je dis ça pour mon voisin, lorsqu'on travaille, on doit absolument démarrer une machine. Bon, je suis sûr qu'il pense la même chose de moi aussi quand je démarre ma tronçonneuse. Enfin, on pourra entendre les oiseaux et les insectes vivront. Bien, ceci étant dit, revenons à nos tailleur de pierre. Un humble métier à première vue, mais on verra dans nos histoires que pourtant il peut faire perdre la tête. En introduction de leur ouvrage sur les contes des sages artisans, Pascal Folliot et Patrick Fishman qui ont rassemblé ces histoires précises. Chez les tailleurs de pierre, on sait qu'on ne tire pas tous les jours de la terre un bon morceau, comme on dit, l'un de ces blocs qu'on roule en douceur pour ne pas le blesser. Avant de manier le grain d'orge, de purger les parties molles, de tracer la poupée à l'ocre rouge ou d'attaquer la pierre vive, on se réconforte avec des contes qui fortifient l'âme. Pour chanter face à la muraille, il faut éprouver la joie du bâtisseur. C'est pourquoi, chez les casse-cailloux, on colporte des récits édifiants. Et en voici donc. La terre en a vu des casse-cailloux. ils ont bâti des chemins à travers le monde, percé des montagnes, relié des villes, ils ont fait les pyramides, essué sang et eau. Sur la route, il y avait un chantier prodigieux que les héros du Moyen-Âge proclamaient pour 100 ans. C'est ainsi qu'un artisan compagnon, traînant dans sa carriole du sable et de la cendre de hêtre, vit 3 tailleurs de pierre s'affairant sur un chantier. L'un était occupé à faire marcher, comme on dit, c'est-à-dire avancer, pousser de gros blocs vers une grue flanquée d'une grande roue de bois. Il avait sûrement besoin de reprendre son souffle. Il était écarlate. « Que fais-tu là, ami loup-garou ?» L'autre releva la tête, le malheur accroché aux yeux, et répondit sans s'arrêter. « Tu vois, je purge ma peine dans la poussière de ce foutu chantier et je m'échine à charrier des pierres. » Le compagnon s'approcha du deuxième tailleur de pierre. « Et toi, que fais-tu, pierreux ?»« Oh, moi, » répondit l'homme, « je construis un mur et je gagne ainsi mon pain avec ma sueur et mes muscles. Ce soir, mes petits iront se coucher le ventre plein. » Le troisième tailleur de pierre arrivait, le regard bleu tourné vers l'esplanade du chantier. « En voilà un qui ne tue pas ses cailloux. J'ai l'œil. Que fais-tu, maître bâtisseur ?» L'autre fit boire sa pierre, la faisant verser d'arrière en avant, s'essuya les mains et répondit en souriant « Je construis une cathédrale. Et toi ?» On attribue cette phrase à Saint François d'Assise, je ne sais si c'est vrai. Celui qui travaille avec ses mains est un manœuvre. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête, un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur, un artisan. On prétend qu'avant de manier leur marteau aux pointes d'acier, les premiers pierreux avaient été initiés par Hercule et Gargantua à la science de la massue, à l'art de déboutonner les chemins. Comme d'autres apprivoisent des tigres, ils avaient appris à dompter les marbres et les granites, à faire marcher les dalles et les rochers sur des billes de bois. Après des siècles et des siècles, les tailleurs de pierre avaient encore ce savoir en eux. Mais la fierté et la joie s'étaient effritées. Désormais, plaintes et apitoiements surprenaient les fils des héros sur leur talus. Or, en ce temps délicat où l'ouvrier pouvait douter de son sort, l'un d'entre eux, tout en sabrant le roc, déplorait son état. « Quelle tâche ingrate et rude, bourdillait, bredouillait-il. Que ne suis-je en ce moment sous le dais d'un lit princier ?» Devant une fenêtre blanche, toute inondée de belles lumières, taillée par mes ouvriers. La terre, qui est bonne, entendit ce fils des géants dont la volonté se délitait. Elle accomplit le souhait du tailleur de pierre, qui se retrouva prince. De son lit de brocart, il pouvait voir la mer, les montagnes, les grands pins parasols. Mais ainsi va le penchant du désœuvrement et de l'envie. Quand il vit passer sous sa fenêtre le roi de la contrée, il trouva sa condition médiocre et son lit trop étroit. Prince, la belle affaire, ah, si j'étais roi! La terre l'entendit se plaindre. Elle répondit à son souhait. Sur la terrasse de son château, il se trouva entouré de serviteurs et de danseuses délicates. Mais quand il contempla le soleil, il comprit que ce royaume n'était qu'un endroit perdu sous le grand ciel. Il trouva sa condition banale, son fief ridicule. Alors, la terre le fit soleil, suivant son désir. Il fut un astre flamboyant. tandis qu'il faisait craqueler le sol, un nuage obscurcit son rayonnement. « Bon, se dit la terre, voilà que ses lamentations reprennent. » Et elle métamorphosa le soleil en un gros nuage gorgé d'eau. « Me voilà coincé entre le sol et le ciel. Ah, si j'étais une cascade !» La terre acquiesça encore. Des flancs de l'insatisfait jaillirent des torrents d'eau claire, des gerbes, des vagues, tout un tumulte de chutes et de petits ruisseaux. Pourtant, il se passa une chose imprévue. Quelle que fût sa force, l'eau se cognit au roc. Être une montagne, voilà ce qu'aurait dû être ma destinée. La terre, toujours patiente, changea la chute en montagne. Mais à cet endroit précis, un ouvrier frappait la pierre avec un marteau grain d'orge qui faisait sauter le long nez d'une arête avec une adresse redoutable. « Je voudrais être cet ouvrier, plus puissant que moi !» murmura le roc, l'esprit saisi par la nostalgie. Et la terre, qui est bonne, entendit revenir la fierté et la joie du fils des géants, lui rendit sa noblesse face à la muraille, sa forme humaine et son chant. Elle songea qu'il avait fallu beaucoup d'égarements pour que le fils de l'homme se réveillât. J'ai été prince et roi, soleil, nuage, cratère. J'ai eu tout ce qu'on peut avoir ici sur terre, en lissant les murs blancs, long là, long l'air, mes souhaits et mes émois. Puis j'ai marqué le toit de la pierre angulaire, j'ai bouchardé le creux des abreuvoirs de lierre, et comme un goéland, long là, long l'air, je suis retourné chez moi.
Stare bory obydwa nic nie będą robiły, aby Janka bawiły. Oj, lo, 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 siedzi baba w ulu, a dziadko łaula, witaj ze babula. Oj, la, 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 la. Sare bory obydwa,
lolaj zemi, lolaj, siwa łacka stuloń, siwa łacka stulis, do mnie się przytulis. Kołysem się kołys, koli beńko sama, bo ci cyganecka po duszeczkę dziana. Kołysę się koły, od ściany do ściany, głośniej ze miłośniej.
Le secret du pont de Poznań. Le roi de Pologne avait entendu parler du fameux maçon bâtisseur qui, bien que très jeune, avait construit avec panache plusieurs ouvrages du royaume. Or, il lui était venu une idée qu'il trouvait ingénieuse. Plutôt que de contourner le fleuve par les gorges pour ensuite le longer et rejoindre un vieux pont dans la partie la plus étroite afin d'atteindre sa capitale, il allait lui commander un pont suspendu au-dessus du vide et gagner ainsi des heures précieuses. Tout en se frottant les mains, il ordonna d'aller en toute hâte chercher son constructeur. Quand le maître d'œuvre arriva tout fringant devant la majesté, il loua le projet, nota qu'il y avait un sacré défi à relever, fit un dessin d'ensemble pour contenter l'œil, et présentant le plan à la sagacité du roi, épongea son front plein d'anxiété. Car, tout en esquissant le futur pont, la peur lui était venue, en même temps que son engagement inéluctable à le réaliser. Ne s'était-il pas laissé griser par l'honneur d'être choisi, lui, le brillant maçon, plus que les vieux architectes ? Certes, il avait bien fait d'accourir, mais n'aurait-il pas été mieux inspiré de dire au roi qu'il allait réfléchir ? Après tout, un artisan doit-il se plier aux défis impossibles ou honorer par son art ce qui est réalisable ? Il était trop tard pour reculer. Il était penché au-dessus de l'abîme, tremblant et désarçonné par le doute. La main confiante du roi sur son épaule qui le félicitait et s'imaginait déjà caracolé sur son cheval blanc, fendre l'air entre deux montagnes. Tout l'après-midi, le jeune artisan tourna en rond de la citadelle aux parois lisses des gorges, scrutant les appuis et les roches. Le jour déclinait et il désespérait de trouver le moyen d'élever une arche de bonne maçonnerie sans s'appuyer sur des piliers intermédiaires. Et comment poser les tabliers de bois ? « Quoi qu'il arrive, » dit-il à voix haute pour se galvaniser, « je construirai ce pont. Je trouverai bien moyen, quitte à conclure un pacte avec le diable. » « On m'appelle ?» La voix était glacée, la laine brûlante. À deux pas se tenait le démon rouge et noir qui épie les imprudents. Son sourire était une grimace. « On m'appelle ? Me voilà. Très beau ton plan, mais personne n'a jamais fait ça, mon garçon. Moi, je peux le faire. Je suis un promoteur du tonnerre. Quel salaire me donneras-tu en échange ? Que me demandes-tu ? Oh, pas grand-chose. Je suis de belle humeur. Disons que lorsque l'ouvrage sera terminé, j'emporterai la première créature vivante qui le traversera. Alors, nous sommes d'accord. Le jeune artisan prit son temps cette fois-ci avant de répondre. Le diable patienta, et la réponse tardant à venir, il tapota nerveusement sur ses moustaches. « Eh bien, c'est d'accord, » fit enfin le maçon. « Comment allons-nous procéder ? Je te soufflerai tout au fur et à mesure. Je ferai fondre du métal, tu disposeras d'énormes chaînes d'acier, tu verras, ce sera facile. » Le diable s'en alla satisfait, certaine de son affaire. Le jeune homme s'était laissé berner. Il avait mordu à l'hameçon et livré sa propre âme. Car la Pologne était la maîtresse des vieilles coutumes. C'était depuis la nuit des temps comme un jeu. Pour toute chose, on nommait le premier qui passait le pont. Et le bâtisseur devait traverser en premier. C'était l'usage. À Vloklavetch, là des chamailleries, on avait choisi de la même façon un nouveau gouverneur à la province. Le premier qui franchirait la Vistule à l'aube serait intronisé. L'élu fut un barbier. Heureux ou malheureux, les artisans de Pologne étaient à la fête. Ce qu'ignorait le diable, c'est que le maçon avait flairé le piège et que non seulement il était bien décidé à ne pas lui offrir son âme, mais entendait lui soutirer une formation accélérée. Il ne se contenta pas de menus conseils ou d'étranges magies, il voulait comprendre. Il apprit comment créer des chaînes solides, accrocher les câbles d'ancrage, décider du nombre de travées, fut initié au calcul de la portée, à l'usage des bois pour les tabliers et les tampons de force. Le diable lui donnait toutes les explications nécessaires, se disant que les fantaisies d'apprentissage de son protégé lui demandaient bien peu en comparaison de ce qu'il allait devoir en retour lui donner. Un beau matin, on posa le dernier rivet, on ôta les derniers échafaudages. Ça y est, le pont suspendu était prêt. Le roi, aux anges, le maçon, souriant et fier. Le diable, aux aguets. Le précipice lui-même était ébahi devant l'audace du maître artisan et devant son œuvre qui l'enjambait d'une rive à l'autre. Le diable risqua un œil se demandant ce qui provoquait l'attroupement à l'entrée du pont, car sous les éclats de rire et les acclamations, deux silhouettes avançaient. Le maçon, hilar, et un cochon bien gras qu'il poussait devant lui. L'emblème avait-il confié au roi d'une grande prospérité chez les gens de métier. Arrivé de l'autre côté, il fit une révérence au démon et, levant la tête, sourit au grand soleil. On entendit tonner dans la vallée. On crut que s'en allait l'orage, mais c'était le diable qui claquait sa porte des enfers dans un juron courroucé. voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Des contes des sages artisans, extrait du livre de Pascal Folio, Patrick Fishman aux éditions du Seuil. Quant aux musiques, vous avez reconnu Bach, joué par Yo-Yo Ma. Et puis après, c'était des musiques polonaises, jouées par un groupe, un band, comme on dit, qui s'appelle Warsaw Band, nom que j'ai un peu de mal à prononcer, de belles musiques polonaises. Parce que l'histoire, bien sûr, du pont de Poznan était tout à fait polonaise, bien qu'on trouve des histoires de pont du diable partout, même tout près de chez nous, vous voyez Cahors. Peut-être il y en a même plus près encore. Eh bien, j'ai fini de parler, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Compte à rebours, c'est terminé, portez-vous bien, ciao.